Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Roxane et je suis l'hôte de Plan B, le podcast mensuel qui va à la rencontre de ceux qui aiment et qui vivent pour et grâce aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Jamard, qui est trader professionnel. C'est parti pour une petite présentation. Bonjour Mathieu, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu es de manière quotidienne dans les crypto-monnaies depuis 8 ans et tu as même démissionné d'une carrière d'ingénieur pour te consacrer temps plein aux crypto-monnaies en tant que trader professionnel. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un fonds de gestion axé crypto-monnaie et ton amour pour les cryptos en général et le trading t'amène à co-organiser mensuellement à Liège depuis des années des meet-up, autrement dit des rencontres de sensibilisation et d'éducation autour de ces thématiques. Et tu participes aussi activement au sein d'une communauté qu'on appelle CryptoFR, dans laquelle tu n'hésites pas à mentorer les jeunes qui viennent pour se former au trading et découvrir les crypto-monnaies. Et donc, tu n'hésites pas à partager tes analyses techniques du cours des cryptos.
Bonjour Roxane, merci pour cette introduction.
Alors Mathieu, je commence toutes mes interviews par cette même question. J'aimerais savoir quel a été le moment, vraiment le moment, où tu as entendu parler pour la première fois des crypto-monnaies et qu'est-ce que tu t'es dit ?
Alors le moment, c'est en fait en été 2010. J'étais en train de faire une seconde session à l'université. J'étais en train d'étudier et pendant mes pauses, je tombe sur un blog. C'était à l'époque un blog de jeux vidéo qui parle de Bitcoin. À l'époque, en fait, il y avait très peu d'informations. C'était en anglais. Mon anglais était un peu moins bon qu'actuellement. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait télécharger un programme et que potentiellement, on allait gagner des Bitcoins. Sans savoir vraiment les tenants aboutissants, bah, j'ai installé ce programme-là. Le premier programme qu'il y avait, c'était à la fois un portefeuille et un programme de minage de Bitcoin. Et je l'ai fait tourner pendant plus de 24 heures sur un petit ordinateur portable. Et le seul résultat que j'ai eu après cette tentative, c'était que j'avais un ordinateur qui était super chaud pendant plus de 24 heures et ça n'avait rien donné, ça avait été infructueux. Et du coup, sans aller plus loin, j'ai désinstallé le programme et je suis passé à d'autres occupations. J'avais d'autres intérêts étudiantins à l'époque et je suis passé à autre chose. Après, le moment, c'est en 2012, je faisais des recherches. Moi, c'est un peu par hasard aussi. Je retombe sur un article qui était cette fois dans un quotidien français, Le Monde. Et il parle de Bitcoin à nouveau en parlant d'une société qui existe toujours actuellement. C'est un échange, une bourse d'échange qui s'appelle Paymium. Et il faisait un peu l'éloge de cette nouvelle pépite qui apparaissait. Et je me suis dit, mais mince, Bitcoin, ça existe toujours, ce truc-là. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais entendu parler de ça. Et je pensais vraiment que c'était une expérience qui allait disparaître à l'époque. Et du coup, je me suis intéressé à nouveau. Cette fois, il y avait un peu plus de ressources pour s'y intéresser. C'est là que j'ai compris finalement que ce n'était pas juste un objet commercial. Loin de là, c'était plutôt en fait un projet qui était open source. Ça, c'était très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire derrière, ça appartient à tout le monde. Tout le monde peut y apporter ses modifications ou ses améliorations. Et puis, j'ai vu aussi que ça pouvait vivre tout seul. Il n'y avait pas besoin d'une entité tierce ou centralisée qui allait le faire vivre. Il vivait tout seul. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre.
Pourquoi est-ce que c'est si incroyable ? Pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire ?
C'est incroyable parce que il n'y a pas besoin de permission, que ce soit installer le programme, que ce soit pour l'utiliser, pour avoir un portefeuille. Nous, on est tellement habitués de nos jours à souscrire à des réseaux sociaux, à des sites. Il faut lire normalement des TOS, des termes of service qui font des dizaines de pages que personne ne lit, où on abandonne tous nos droits, etc. Dans ce cas-ci, il n'y a rien de tout ça. Chacun est libre et souverain de l'utiliser et sans permission. Et c'est assez rare de voir ça. Un autre projet open source qui est un peu similaire, c'est Linux, un système d'exploitation. Donc, ça permet de faire tourner des machines. Par exemple, les GSM Android utilisent une base Linux, si je ne m'abuse. Ce programme-là est aussi utilisable par n'importe qui. C'est gratuit, on peut l'utiliser sans permission. Après, maintenant, la différence par rapport au projet Bitcoin, c'est que le projet Linux, il y a quand même des entreprises qui, non pas vivent de la vente du produit, mais vivent des services qui tournent autour Et c'est principalement ces entreprises avec finalement leurs revenus qui entretiennent l'écosystème Linux, en guillemets. Il y a très peu de personnes sans intérêt qui participent. Dans le cas de Bitcoin, là, c'est vraiment différent. Il n'y a pas d'entité privée qui vit vraiment de Bitcoin. Et là, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus... les utilisateurs sont vraiment au même pied d'égalité. C'est beaucoup plus horizontal comme projet parce que tout le monde gagne un intérêt à s'adresser à Bitcoin. S'il n'y a pas un intérêt directement financier, ou c'est vrai, si on a envie de participer à un projet, ben, on pourrait acheter des bitcoins et se dire que grâce à mon apport, ça va solidifier le projet et j'en profiterai directement. Mais il y a aussi également pas nécessairement d'intérêt financier. Bitcoin est maintenant perçu comme un projet scientifique quand même de très haut plan, sur le plan cryptographique. Et le fait d'apporter une modification, c'est un peu le Graal à ce niveau-là, permet d'être reconnu par ses pairs informaticiens cryptographe comme quelqu'un d'extrêmement compétent, car il a pu apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle implémentation, une nouvelle amélioration au projet Bitcoin qui, il faut le rappeler, évolue quand même avec une update par mois. J'avais un peu regardé les statistiques. Depuis 10 ans, il y a à peu près une amélioration du programme tous les mois.
Donc là, on est fin 2012, tu découvres cet article dans Le Monde. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides d'organiser un meet-up pour trouver des acolytes pour entrer dans cette folle aventure avec toi ?
Oui, donc on en a un peu parlé. Et à l'époque, moi, je venais de terminer mes études. Je commençais ma carrière professionnelle. J'avais aucune notion en termes d'investissement, que ce soit au niveau de la culture familiale. Et jusqu'alors, je n'avais jamais vraiment investi. Et c'est pour ça que je pense, rétrospectivement, je me suis mis en quête de trouver d'autres personnes qui étaient prêtes à soit apporter un regard éclairé sur le projet, ou soit sur l'investissement en général, ou qui étaient prêtes à me suivre dans le délire. Parce qu'à l'époque, ça restait quand même très novateur, limite obscur. Et du coup, oui, j'ai fait une petite annonce sur un réseau social pour trouver des personnes qui seraient prêtes à en parler autour d'un verre. Il se fait que 5-6 personnes répondent présentes. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant faire ça correctement en faisant une petite présentation. Et du coup, j'ai loué un petit local. J'ai invité ces personnes. Il y avait un petit sandwich, etc. Et alors, on s'est rencontrés dans ces locaux.
Et tu as mis les petits plats dans les grands en allant jusqu'à leur offrir un cadeau. C'était quoi ce cadeau ?
Alors, c'est un peu le côté croustillant. Le cadeau, en fait, c'est que quelques jours avant, je venais d'acheter ce qu'on appelle des pièces Bitcoin. Ces pièces, en fait, c'est très symbolique, mais elles ont une utilité physique. C'est que sur une pièce Bitcoin, on peut avoir une adresse Bitcoin. On peut la voir que sur cette adresse, il y avait la présence d'un Bitcoin. À l'époque, j'avais acheté ça une dizaine d'euros. Ça venait des États-Unis. C'est la première fois qu'il y avait ce genre d'objet physique. Et de l'autre côté de la pièce se trouve, en gros, la clé privée. C'est le mot de passe qui, si on enlève un autocollant, et ça se fait de manière irréversible, je ne sais pas l'enlever et le recoller, on peut accéder au Bitcoin qui est présent sur l'adresse qui est de l'autre côté. À ce moment-là, donc, j'avais reçu ces pièces-là et je m'étais dit que pour faire un petit cadeau à mes convives et les remercier d'avoir répondu présent, j'avais distribué un Bitcoin, une pièce à chacun. Et je crois qu'on était 6 ou 7. Plus moi. Donc, en gros, j'ai distribué 7 bitcoins. Et encore aujourd'hui, je connais certaines personnes qui l'ont toujours, cette petite relique, 7 ans après.
Ça vaut combien aujourd'hui ?
Alors, maintenant, un bitcoin, c'est plus ou moins 15 000 euros. Donc, j'ai donné, on va dire, une centaine de milliers d'euros lors de cette présentation.
Il y a certaines personnes qui ne doivent pas avoir regretté d'être venues, hein ?
Non, mais après, elles ont été récompensées, elles ont répondu présent, elles étaient curieuses et voilà, ça m'a permis aussi de me découvrir quelque chose. En fait, c'était aussi dans la présentation, on aurait pu dire que je suis aussi un vulgarisateur. J'ai découvert ça et voilà, ça m'anime, ça me remplit et j'adore parler de ce sujet-là.
Alors justement, Bitcoin est né donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années et à peine 2-3 ans plus tard, tu décidais de t'y consacrer entièrement. Si on peut dire, tu as décidé même, ou tu as été convaincu de remettre ta vie entière entre les mains des crypto-monnaies, puisque tu es devenu trader professionnel, que tu as créé un fonds, etc. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont sceptiques, qui sont frileux à rentrer dans les crypto-monnaies, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as vraiment décidé, du jour au lendemain, je me consacre que à ça ?
En fait, déjà, ça reste quand même dans mon caractère initial. Quand j'ai fait des études d'ingénieur, c'était de manière assez opportuniste. C'est-à-dire que je voulais faire un diplôme qui allait m'ouvrir le plus de portes. Bon, j'avais certaines, évidemment, bases et peut-être facilités en ce qui était maths et sciences. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je m'étais toujours forcé de laisser ces portes ouvertes déjà en secondaire. Ensuite, dans le caractère, c'était que je me prévoyais pas de faire une longue carrière d'employé. Donc déjà, à la base, quand j'allais trouver mon premier emploi, c'était pas pour rester très longtemps. C'était déjà dans mes plans, c'est-à-dire d'être entrepreneur à un moment donné. Le but, là, c'était assez calculé, c'était de me dire... J'ai un bon diplôme, j'aurai déjà une première expérience professionnelle et ça me permettra, à partir du moment où je trouverai quelque chose qui m'intéresse ou une opportunité qui se présentera, je pourrai finalement avoir un parachute, c'est-à-dire je pourrai tenter l'aventure en sachant que je pourrai retrouver aussi un boulot assez facilement derrière en fait. Donc c'était pas nécessairement lié aux crypto-monnaies, il se fait que cette opportunité s'est présentée et là je me suis dit évidemment c'est un secteur certainement porteur parce que avant de décider un choix d'entrepreneuriat ou de carrière, on a aussi le choix de décider dans quel secteur on va travailler. Alors, j'ai d'anciens étudiants à qui j'étais, qui ont décidé, par exemple, d'aller dans l'acierie, dans l'acier, l'industrie de l'acier. Or, on sait que l'acier en Europe, c'était pas un secteur qui allait être très porteur. C'est plutôt en décroissance, ce secteur. Mais moi, j'ai décidé, voilà, de trouver une opportunité dans un secteur qui allait être porteur. Et il se fait que, on va dire, les crypto-monnaies cochaient un peu toutes ces cases.
À aucun moment, tu as eu un doute?
Mais évidemment. je m'étais dit, en fait, en accord avec ma femme actuelle, à l'époque, on n'était pas encore mariés, je m'étais dit, voilà, je me donne un an. Je sais qu'il me faut autant d'argent pour pouvoir survivre. Et je m'étais donné le budget et un an pour me lancer. Et puis alors, si à l'issue de cette année et ou du budget qui était entamé, ça ne marchait pas, ben j'aurais repris un travail.
Et ça a été facile, ça a fonctionné pour toi dès le premier jour ?
Premier jour, donc impossible de savoir évidemment. Mais il se fait que j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que moi j'ai découvert on va dire, le Bitcoin et vraiment par un moment heureux, c'est que je l'ai, du coup j'en ai acheté. Hein, avec mes, quand on repense aux invités que j'avais, qui étaient venus début 2013. Bon, j'avais pas entendu leur approbation, mais j'avais déjà commencé à acheter des bitcoins et je m'étais dit, ben voilà, je vais faire un pari financier. Et il se fait que c'était vraiment pile à bon moment parce que début 2013, en fait, le prix du bitcoin ne va faire qu'augmenter et j'aurais pu, par malchance, acheter peut-être un an auparavant. Et là, pendant un an, ça ne faisait que baisser, par exemple. Et donc là, je reconnais que c'était vraiment lié à la chance. Et le parcours d'entrepreneuriat, bah, il y aura toujours ce facteur chance. Par contre, il faut essayer de le forcer. Et voilà, le mérite que j'ai eu, c'est peut-être probablement de forcer la chance. Et j'en ai eu. Et donc, ça a été assez simple ensuite pour moi, parce que le petit budget que je m'étais prévu, bah, finalement, il a grossi. Et ça me faisait plusieurs années, finalement, possible pour continuer d'investiguer dans cette voie.
Tu faisais déjà donc du trading au quotidien. C'est ça que tu t'étais dit, je me donne un an pour apprendre à trader et trader du Bitcoin.
C'est ça. On va dire que d'abord, mon premier profil, c'était investisseur chanceux. Ensuite, pour ce qui est du trading, c'est-à-dire vraiment surperformer sur les marchés, là, c'était de manière autodidacte et j'allais commencer à apprendre comment faire, en fait. Et il faut plusieurs années pour devenir un trader confirmé. Et donc, moi, j'étais qu'au début de cet apprentissage-là. Je n'avais pas de formation au préalable. Si ce n'est quand même, parce que ça, il faut quand même le dire, je ne me suis pas mis dans la tête de devenir trader comme ça par pure lubie. C'est parce que lors de mes études, j'ai joué, alors certains vont juger peut-être ça immoral, mais bon, si on s'intéresse vraiment à la pratique, c'est quelque chose de très sain. J'ai joué au poker pendant mes études d'ingénieur et j'ai joué en le prenant très au sérieux et ça se passait très bien et je faisais des bonnes performances en fait dans cette pratique de jeu d'argent à information incomplète. Et le trading, c'est pareil. C'est un jeu d'argent à information incomplète. Et ça développe, en fait, pratiquer ce genre de pratique permet de développer des caractéristiques intellectuelles et même émotionnelles, voire comportementales, qui font qu'on va commencer à performer mieux que d'autres dans ce genre de jeu. On appelle ça un jeu parce que c'est basé sur la théorie des jeux, le game theory. Et il se fait que bah, j'avais ces affinités, j'avais ces particularités et j'avais des capacités, voilà, dans le poker que j'ai pu transposer ensuite dans le trading. Et un exemple très simple, c'est ne pas être affecté par des pertes et ne pas être à l'inverse euphorique quand on fait des gains. Ça, c'est déjà un début d'être stoïque face à la pratique du trading qui peut être très fluctuante, évidemment. Et donc, voilà, je me suis dit que je pouvais transposer ce que j'avais acquis pendant plusieurs années. Donc, je jouais à un niveau professionnel au poker. Je me suis dit que j'allais le transposer au trading et que grâce à ma tête d'ingénieur, j'allais étudier, parce que je suis avide, évidemment, d'apprendre, j'allais étudier le trading. Donc, je ne pouvais pas dire qu'en un an, j'allais réussir, mais je me donnais le moyen de commencer à apprendre Et ça a pris plusieurs années. Voilà, ça ne s'est pas fait directement. Le succès n'était pas direct. Mais voilà, après 2-3 ans, j'étais vraiment beaucoup plus à l'aise. Et j'en suis arrivé à finalement en faire vraiment mon métier et à le proposer à d'autres personnes. Ça, c'est encore un autre palier peut-être qu'on va aborder après.
Si tu veux, on peut en parler maintenant. Non, je voudrais savoir, est-ce que tu trouves du sens dans ton métier de trader et de proposer ce type de service à des entreprises ou à des particuliers ? Quand je vois un trader, la seule image que j'avais du trader, c'était ces gens à Wall Street et donc qui spéculent, tu vois, à longueur de journée. J'avais l'impression que ça manquait un peu d'humain, de social. J'entends dans les différentes interviews que j'ai déjà faites, les gens sont souvent rentrés plutôt pour la philosophie. Et toi, tu es le premier à être rentré finalement pour l'argent.
Pour réagir sur ce dernier point, peut-être qu'il y avait une intuition que c'était une amélioration de certaines choses. Ça va apporter des choses. Le Bitcoin et le concept de blockchain va apporter des améliorations, des meilleures, régler peut-être des inefficiences dans la société. Donc, il y avait quand même cette part fondamentale. Après, c'est certain qu'il y a évidemment le projet, Bitcoin avec un grand B, et puis il y a le token, Bitcoin avec un petit B. Donc, le token, le jeton, l'unité Bitcoin. Il faut savoir à un moment aussi dissocier les deux. Le projet technique a ses règles et ses phares, et le token en lui-même va répondre à des, pas à des exigences, mais ça va répondre à un domaine qui est de l'ordre, en effet, de la finance, de l'investissement et de la spéculation. Et les deux peuvent très bien cohabiter sans nécessairement se marcher l'un sur l'autre. Donc moi, j'ai fait le pari, en effet, de distinguer le côté technique et le côté token financier et de me spécialiser finalement là où j'avais le plus de valeur, qui n'était pas évidemment dans peut-être la promotion de la technologie, ni même développée informatiquement pour la technologie. Mais je me suis mis dans concentrer ma plus-value dans ce qui était le côté financier du token. Après maintenant, une autre question, c'est, je me suis fait aussi cette introspection, j'avais les mêmes a priori que toi. C'est-à-dire que pour moi, le trader, je n'avais pas beaucoup d'affinité avec ce genre de type de métier. Je pensais déjà que c'était un monde inaccessible. J'allais être ingénieur et peut-être employé. Et tout ce qui était banque et investissement et Wall Street, City, Londres, c'était des choses qui étaient inatteignables. Je pensais qu'il fallait vraiment des passe-droits, qu'il fallait des diplômes, toute une carrière à faire peut-être dans le métier. Et finalement, j'ai remarqué que c'était très poreux. Tout le monde fait de la spéculation tous les jours. Et on va parler du point spéculation après, mais quand on fait des choix d'acheter plutôt tel ou tel légume pour tel ou tel prix, ou louer ou pas, au lieu d'acheter une maison, ou faire une carrière dans tel ou tel secteur, en fait. Donc chacun, avec son échelle, tous les jours, fait des dizaines de choix, en fait, entre un bien ou un service pour un tel ou tel prix. Et donc déjà, en fait, on fait tous déjà ça de base. Ensuite, bien évidemment, il y a la sphère spéculation financière. On va peut-être en parler après, mais ça, c'est vraiment un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait, à la limite, faire tout un podcast sur le choix de société dans lequel on est. Est-ce qu'on préfère une société où les prix sont dictés par une administration, donc une économie planifiée, ou est-ce qu'on préfère, on laisse libre cours à chacun de décider du prix des choses. Et donc ça en gros, une économie planifiée ou une économie libérale, en fait. Et ça fait qu'on a déjà eu ces plusieurs expériences qui se sont entrechoquées, et on peut déjà quand même tirer certaines conclusions, lesquelles sont plus profitables. Mais ça mérite à la limite tout un podcast là-dessus. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres remarques, mais je me suis fait cette introspection sur est-ce que finalement le métier de trader, c'est bien. J'y ai réfléchi et je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a une plus-value à faire ce genre de métier. En fait, quand on laisse un marché, donc un prix se décider par des amateurs, donc on va appeler amateurs des gens qui ne sont pas professionnels, qui ne vivent pas de ce métier. Et c'était le cas, par exemple, du Bitcoin très tôt ou des altcoins plus tard. Ces marchés-là sont beaucoup plus volatiles, en fait. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les professionnels, avec peut-être certaines connaissances et peut-être moins d'émotionnel, d'affect qu'ils ont dans les marchés, vont faire en sorte que les marchés vont être plus matures et moins volatiles. Donc ça, c'est un peu le paradoxe. C'est qu'on croit que des professionnels, des traders de Wall Street vont faire fluctuer les prix et les biens et les produits. Alors qu'en fait, quand plus de professionnels rentrent dans un marché, cette variation de prix ont tendance à être lissée, en fait. Là où un amateur va vraiment vouloir acheter, on appelle ça FOMO, Fear of Missing Out, c'est acheter quelque chose parce qu'il monte, il monte et il veut absolument en acheter. Peut-être qu'un professionnel, lui, est plus tempéré à ce niveau-là. Et à l'inverse, à contrario, il y a ce sentiment de panique dans les marchés et c'est exacerbé quand on laisse des amateurs abandonner un actif, de le vendre. Ça va descendre beaucoup plus bas que là où des professionnels vont peut-être acheter. Donc, c'est ça le principe de lisser pour moi. Et ça, j'en suis arrivé à la conclusion que le marché Bitcoin qui était naissant a besoin de professionnels. Donc, c'est aligné avec finalement ma vision des choses fondamentales sur le projet et l'apport que je peux apporter aux tokens financiers en me disant qu'on se plaint souvent que le Bitcoin est très volatile. Ben, ma mission, ça va être justement de faire en sorte qu'il devienne moins volatile par ce que je vais proposer. En fait.
Et donc, dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies en général, ce n'est finalement pas réservé qu'à une élite d'initiés comme toi en tant que trader. C'est vraiment pour tout le monde.
C'est ça. Et on n'est pas opposable, au contraire. Et c'est un reproche qu'on a fait souvent au Bitcoin, c'est d'être trop volatile. Et je pense que ma mission est en accord avec ça. Alors, je te rejoins sur le fait que c'est abordable, c'est accessible à tout le monde. J'ai écrit un article il y a une semaine. J'avais comparé performance du Bitcoin, qui est sur toutes les lèvres dès que les journaux en parlent. C'est pour dire, voilà, c'était à 1 dollar à tel moment et c'est à 20 000 dollars maintenant. Et pourtant, c'est pas très singulier comme performance. Il y a beaucoup de performances du genre. Vous allez voir où je vais en venir. J'ai fait une petite comparaison, du coup, avec Facebook. Facebook, en fait, il n'a été accessible au grand public qu'à partir de 2012, lors de l'introduction en bourse. L'introduction en bourse, c'est le grand moment où, finalement, on quitte les accords privés qui étaient faits au préalable et ça rentre de manière anonyme, c'est accessible de manière anonyme, enfin, ça a marché, voilà, beaucoup plus ouvert au grand public, où les gens peuvent acheter l'action Facebook. En 2012, l'action Facebook est listée à 32 dollars, on est à 280 dollars aujourd'hui. Mais là où je veux en venir, c'est que Facebook, ça a été fondé en 2004 ou 2005, je ne sais plus. Et ça a commencé avec des actions qui valaient la fraction de centime. Je crois que c'est un centième de centime. C'est 0,0001 dollar, quelque chose comme ça. Pourquoi ça a été rendu possible d'avoir des actions si peu chères? C'est parce qu'on était dans des deals très privés de seed investment. C'est des premiers investissements de business angels, c'est-à-dire que un certain Peter Thiel rencontre Mark Zuckerberg et il croit dans son projet, mais les chances de succès sont très fines. Et donc on recherche souvent des gens qui sont prêts à donner une part substantielle, un investissement substantiel qui va permettre de soutenir l'activité sans retour. C'est-à-dire que Peter Thiel va investir 500 000 dollars pour 10% de la société. Il demande vraiment pas de compte. C'est-à-dire qu'ils vont juste que Mark Zuckerberg puisse remplir sa vision et avoir les moyens d'y arriver. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les séries A, séries B, C, D, E, si ça continue. C'est chaque fois encore des moments où d'autres personnes entrent dans le capital de la société. Et là où je veux en venir, c'est que ces séries de seed, séries A, etc., ne sont pas accessibles pour le grand public. C'est réservé à des investisseurs professionnels. Je pense qu'à juste titre, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup peut-être de gens qui pourraient gruger n'importe qui pour des projets un peu abscons, voire mal éclairés, et ce serait juste un moyen de rente, de vivre sur l'argent des autres pour tenter sans grand succès des projets. Dans le cas de Facebook, finalement, on a eu une performance exceptionnelle aussi. On est passé d'une fraction de centime à 280 dollars aujourd'hui. Finalement, la conclusion de cela, c'est que Bitcoin a très bien performé, mais Bitcoin, lui, c'était déjà un seed investment. Au tout début, tout le monde pouvait déjà accéder à ça. Tout le monde était au même pied d'égalité. Là, on peut juste s'en vouloir, c'est de ne pas avoir été curieux assez tôt. Tandis que pour Facebook, moi, je ne peux pas m'en vouloir de ne pas avoir participé très tôt. C'était réservé à des investisseurs américains très select, on va dire, et j'aurais pas su les avoir. Tandis que Bitcoin, moi, j'aurais pu en acheter déjà quand je m'y intéressais en 2010. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, tout le monde peut y participer et il n'y a plus ces intermédiaires, en fait, pour accéder au produit fini qui est Bitcoin. Tout le monde peut en avoir très facilement.
Donc, en fait, juste par l'éducation, tout un chacun, n'importe où dans le monde, pourrait rentrer dans Bitcoin. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore vraiment Bitcoin, qui en entendent parler ou qui entendent parler d'autres crypto-monnaies, donc les altcoins, et qui aimeraient débuter, par où est-ce qu'ils commencent?
Alors, j'ai beaucoup eu, au travers de ces dernières années, j'ai beaucoup parlé avec, que ce soit des amis, des connaissances, ou même des personnes qui me demandaient des conseils. Et en général, ce que je conseille, alors ça va paraître un peu brutal, mais c'est dans la mesure des possibilités, et si cela vous intéresse, et si vous avez de l'épargne que vous n'utilisez pas, c'est déjà d'en acheter. Je parle de Bitcoin, je ne vais pas parler d'altcoin, c'est pour un autre sujet, mais acheter déjà de Bitcoin avant même de commencer à en apprendre plus. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de regrets de ma part, des deux parties, c'est qu'on en a parlé, on en a beaucoup discuté, et puis ça prend des mois, et parfois un ou deux ans plus tard, on en est toujours au même stade. C'est-à-dire qu'on est toujours à « est-ce que je passe le cap ou pas ?» Et ça reporte toujours cette échéance. Puis finalement, on a laissé passer des opportunités qui étaient très intéressantes. Moi, je suis persuadé que que le Bitcoin, et c'est pas un conseil d'investissement, faites vos recherches, et c'est que mon avis, est encore très sous-évalué. Je pense qu'au plus tôt on en achète, et à la limite, si vous hésitez aussi sur le timing d'entrée, c'est rien que le fait d'en acheter un petit peu maintenant, vous aurez déjà tout en place pour peut-être faire un plan, c'est-à-dire que tous les mois vous en achetez ou vous le faites en trois fois, espacé de 3-4 mois. Comme ça, vous ne vous intéressez pas trop au timing de l'investissement. Ça paraît un peu poussif, mais je vous assure que toutes les personnes qui ont suivi ce conseil sont très vite intéressées, beaucoup plus vite au Bitcoin finalement ou aux crypto-monnaies, en ayant directement déjà acheté un minimum, que celles sur qui ça restait juste de l'échange et en parler, finalement ont reporté cette échéance-là. Alors, donc le conseil, c'est faites-le assez rapidement et puis apprenez. Et pour faire ça, moi, je recommande en général des échanges réputés ici et historiques hein, qui sont là depuis des années, qui ont des licences européennes, à savoir bitstamp.net, kraken.com, coinbase.com. Je pense que c'est trois échanges les plus faciles d'accès. Il faut juste créer un compte, mettre une pièce d'identité, une preuve de domicile, c'est des choses tout à fait classiques. Et puis alors, si vous le désirez, vous faites un virement bancaire et en moins de 24 heures, vous pourrez acquérir ou investir pour la première fois dans les crypto-monnaies. La caractéristique de Bitcoin, elle est assez simple à comprendre, c'est vous êtes souverain de l'achat de votre Bitcoin. Vous ne pouvez pas vous en remettre à quelqu'un d'autre si ce n'est que passer par un service, une bourse, un marché d'échange. Éviter le maximum d'intermédiaires, en fait. Et Bitcoin a été inventé pour ça. C'est pour éviter tout tiers, tout échange avec des tiers ou tout intermédiaire, en fait. À partir du moment où il y a un intermédiaire, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il est présent pour me proposer ou me vendre du soi-disant Bitcoin? Si vous n'êtes pas certain de cela, remettez vraiment en question pourquoi vous passez par un intermédiaire. Alors, vous pouvez le faire vous-même de manière souveraine. Achetez vous-même du Bitcoin. Il faut réfléchir là-dessus. En effet, il y a des centaines d'arnaques où c'est à chaque fois plus ou moins le même principe. Donc, c'est pas tellement les pièces, c'est plutôt en fait des faux sites de revente de Bitcoin ou des faux sites d'investissement où vous aurez des interlocuteurs qui vont vous dire donnez-nous de l'argent, on va l'investir pour vous. Mais pourquoi avoir cet interlocuteur? Posez-vous bien la question. Il y a un motto, donc précepte qui revient souvent dans les crypto-monnaies et Bitcoin, c'est « Don't trust, verify ». Ne faites pas confiance à quiconque, si ce n'est vous, et vérifiez toujours. D'ailleurs, Bitcoin, c'est un système trustless qui ne nécessite pas de faire confiance. On ne doit pas demander la permission à un organisme pour envoyer des Bitcoins ou les recevoir. Et d'ailleurs, voilà, un autre point, c'est qu'une fois qu'on a obtenu ces Bitcoins sur un site que j'ai cité, qui sont safe, vous pouvez vous-même les recevoir en fait sur du stockage personnel. Donc on appelle ça généralement stockage physique avec des clés hardware ou des paper wallets. Attention de faire ça très correctement avec certaines règles d'usage ou pour des utilisateurs peut-être plus expérimentés sur des ordinateurs dédié à cela. Et donc à ce moment-là, vous recevrez vous-même les bitcoins et ils vous appartiennent.
Merci Mathieu pour tous ces bons conseils. Bitcoin, les cryptos en général ont impacté ta vie complètement, je suppose. C'était pas du tout la vie que tu imaginais que tu allais avoir quand tu étais plus jeune ou quand tu finissais tes études. J'imagine que ça a impacté ta vie évidemment au niveau financier. Mais est-ce qu'il y a d'autres parties que ça a transformées?
Évidemment, le succès n'était pas attendu. Hein. Si on revient sur le processus, c'était juste de survivre 1, 2, 3 ans. C'est quelque chose qui est important à savoir. Et là, on s'éloigne peut-être du crypto, mais si on lit par exemple Atomic Habits, c'est un livre sur les habitudes à acquérir. Et en fait, en général, on prend les projets par le mauvais côté de la lorgnette. C'est-à-dire que n'importe qui veut être à succès, n'importe qui veut être riche, n'importe qui veut être athlétique, veut atteindre des objectifs. Or, ces objectifs, en fait, c'est très bien de les avoir. Par exemple, prenons un exemple assez basique, je veux être riche. En fait, c'est pas l'objectif, finalement, qui va conditionner le succès. Tout le monde veut l'être, c'est très commun de vouloir être riche. Par contre, si on se préoccupe du processus pour y arriver et qu'on oublie un peu l'objectif, on le met un peu de côté, mais qu'on se concentre sur comment y arriver étape par étape et qu'on se concentre sur ces petites étapes qui paraissent anodines, et ben finalement l'objectif n'est que le fruit de cette attention qui a été faite sur chaque étape de la vie. Alors ça paraît un peu présomptueux là ce que je raconte, mais c'est juste en regardant, je m'étais dit je vais faire des études, peut-être qui me donneront un peu plus de chance, qui vont m'ouvrir un peu plus de portes. Quand je me suis lancé, c'était je vais essayer de survivre. Je vais essayer d'apprendre de faire ça de manière consciencieuse. Puis alors, je l'ai fait à mon échelle personnelle. Puis finalement, je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant ce que je fais, est-ce que d'autres personnes sont intéressées par ce que je fais ? Puis voilà, petit à petit, on arrive finalement à remplir ses objectifs. Et pareil, moi je joue basket, j'aimerais bien être Michael Jordan, mais je sais que je ne fais pas les efforts nécessaires dans le processus d'y arriver. Je ne fais pas d'exercice de musculation, je ne fais pas d'exercice de détente, je suis raide comme pas possible, et donc je sais que je n'y arriverai jamais. Et donc à partir du moment où on comprend que je ne serai pas Michael Jordan, cet objectif ne sera jamais rempli, ben je n'ai pas de déception à avoir. Voilà, j'accepte cette fatalité. Ce qui change là maintenant, c'est depuis ces dernières années, je me suis lancé finalement dans un projet commercial et entrepreneurial qui est donc le fonds de gestion. C'est une société qui a été créée ici en Belgique, qui permet finalement de vendre de l'intelligence de trading, des services d'investissement, de sécurisation des actifs, donc des bitcoins. Et donc, on a une palette comme ça de services. Et ça, c'est nouveau pour moi. Je suis passé de ingénieur, papa, homme marié, trader, mercenaire sur les marchés, à maintenant entrepreneur au sens strict. Et je ne sais pas dans quelle aventure je mets les pieds aussi. C'est assez nouveau pour moi. Je ne sais pas vers quoi ça va mener. Et puis, j'essaie de faire ça correctement.
Ça fait combien de temps que tu as lancé cette entreprise ?
Depuis début 2019.
Et elle est destinée à quel public ?
Alors, c'est plutôt du B2B, donc plutôt business to business, ou à des investissements minimaux. En fait, on va parler malheureusement en termes d'argent comptant. C'est que ce sont des investissements qui nécessitent un minimum requis par les recommandations européennes, qui est de plus de 125 000 euros, ce qui permet, vu que ça reste des investissements à risque, on ne peut pas le promouvoir auprès du grand public, malheureusement. Et malheureusement, là, je sors un peu de ce qui avait été dit préalablement. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'acheter pour moins que ça, évidemment, de vous-même. Mais mes services sont réservés à des investisseurs qui sont dits qualifiés. Voilà.
Donc, l'idée, c'est qu'ils te donnent la gestion totale de leurs fonds et toi, tu fais des plus-values ou des pertes.
Grosso modo, c'est ça. En fait, nous, on a plutôt axé sur... c'est un besoin personnel, en fait. Cette entreprise est née d'un besoin personnel. C'est pas tellement de gagner beaucoup d'argent, c'est plutôt d'éviter des baisses. Et le produit de cette approche, parce que je voulais en fait gérer des actifs personnels, je voulais les laisser gérer par finalement de l'intelligence algorithmique. Donc, on a développé une intelligence de trading informatique qui permet de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça me permettait, moi, de me libérer à un moment donné du temps aussi, d'être un peu plus serein aussi dans ma vie. Et le but, c'était surtout d'éviter des baisses, des gros crashs, hein, comme il y a eu plusieurs fois ou fréquemment sur le Bitcoin. Et le produit de cela, c'est que ça performe pas mal du tout. C'est que on évite donc les baisses, on prend les hausses, et voilà, c'est quelque chose qui est maintenant fort demandé finalement par nos investisseurs. C'est pas tellement de gagner beaucoup plus, les cryptos sont déjà peuvent donner déjà des retours financiers très importants avec une approche plutôt simple, mais si on peut éviter évidemment les baisses, alors du coup c'est d'autant plus pertinent pour le secteur.
Et si les crypto-monnaies se crachent complètement demain et qu'elles n'existent plus, tu fais quoi ?
Bonne question. Déjà, première question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait déjà ce problème, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un crash ? C'est-à-dire que j'aurais déjà peut-être mal identifié le secteur dans lequel je voulais évoluer. À ma connaissance, je ne connais pas de risque qui permettrait de dire que ce soit plausible, que ça disparaisse ou crache totalement. Déjà, je remettrais en cause quand même cette question. Et les deux seuls moyens où je verrais que les cryptos peuvent se crasher complètement, c'est soit une exploitation au niveau de la cryptographie, donc qui est à la base du système, c'est-à-dire que la cryptographie a été hackée, on va dire. Mais ce point-là, il peut déjà être quand même envisagé en amont. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de scientifiques les plus pointus de la planète en cryptographie qui participent au projet Bitcoin. Ces personnes peuvent déjà se prémunir de risques potentiels qui peuvent apparaître. Ce risque ne peut pas apparaître du jour au lendemain. C'est des choses qu'on peut voir venir. C'est des choses qui sont étudiées et qu'on peut déjà essayer d'anticiper ça. Si vraiment il y avait un risque fondamental que la cryptographie qui sous-tend cette technologie peut être hackée, on verrait déjà un désinvestissement en amont du secteur. Donc, ce ne sera pas brutal. Je pense que le côté brutal du jour au lendemain, c'est hacké et ça tombe. je pense pas que c'est quelque chose même de plausible. On le verrait déjà en amont, ce serait déjà anticipé, le secteur serait déjà désinvesti à cause de ce risque. Un autre point, c'est que même si ça venait être hacké, on peut toujours arrêter Bitcoin. Bitcoin fonctionne depuis 10 ans au rythme d'un bloc toutes les 10 minutes à peu près. Mais on pourrait se dire, d'un consensus commun, voilà, là il y a un problème, on va tout arrêter. On va essayer de régler ce problème-là. Tant qu'il n'est pas réglé, on arrête l'expérience et on pourra la relancer une fois qu'on a trouvé les parades ou une mise à jour nécessaire pour continuer finalement ce livre des comptes, parce que ce n'est qu'un livre des comptes quand on va dans le détail. Et au final, on aura évité ce risque informatique. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point où je verrais que ça tomberait à zéro, ce serait une... Mais alors là, c'est toujours marrant, mais c'est un peu paradoxal. Ce serait de vouloir interdire absolument l'usage, l'échange de Bitcoin. Mais on a remarqué que ça fait aussi bonne presse. Vouloir absolument... combattre quelque chose qui est finalement insaisissable et qui ne saurait pas être combattu. Parce que c'est comme vouloir couper Internet, finalement, même dans les pays où on essaie de couper Internet, on a quand même toujours accès par des moyens détournés à Internet. Là, c'est le même principe, on ne saurait pas l'interdire. Et ce serait côté financier, essayer de l'interdire, je crois que ça ferait bonne pub. Et d'autant plus que finalement, on est dans un problème du dilemme du prisonnier. Je vous invite à regarder ce que c'est. Finalement, les pays ont tout intérêt à devoir collaborer finalement, non pas contre, mais pour le Bitcoin, parce que il y a des pays comme le Japon, la Suisse, qui ont reconnu le Bitcoin et qui, finalement, ils vont pas revenir en arrière et l'interdire. Et tandis que les pays qui vont l'interdire à côté de ça, ils vont se tirer une balle dans le pied et faire profiter, finalement, des pays où le secteur crypto-monnaie va émerger beaucoup plus qu'ailleurs.
Du coup, toi, tu as une vision très positive et favorable du futur de Bitcoin.
J'ai une vision, en effet, très, très... optimiste, là, dites comme ça. Est-ce qu'il y a des risques fondamentaux mettre à zéro? Ben, ça a été beaucoup discuté, tout ça, même au niveau du minage, etc. Mais si vraiment ça venait à être le cas, ben, évidemment, je serais très déçu. Je sais aussi que mes services seront sortis du marché, je pense, avant qu'il y ait ce problème. Mon état, je pense, ne sera pas dépendant, je ne serai pas complètement à la rue, on va dire, à ce niveau-là. Ce sera vraiment une déception, et pas que financière, je me dis sur le plan aussi idéologique, scientifique, technique, ce serait une grosse perte d'avoir vu ce projet. C'était un cadeau qui a été fait finalement par une personne anonyme, et ce projet a perduré pendant des années. Ce serait très triste de le voir disparaître et de revenir à un monde où on connaît, où tout est super centralisé, et puis on sera toujours dépendant d'intermédiaires et de contrats de services qui nous lient à ces intermédiaires. Ce sera un peu triste de revenir là-dedans. Et donc, plus qu'un chagrin financier, ce sera vraiment un chagrin intellectuel. Et le but, là, maintenant, c'est plus mon objectif maintenant, actuel, de mes jours, c'est voilà, de faire une expérience entrepreneuriale à succès. Je passe beaucoup de temps là-dessus et c'est très enrichissant. Et c'est d'autant plus excitant que... On va dire l'investissement, le trading, je sais vers où ça mène et il n'y a pas tellement de diversité dans ce qui va se passer. Tandis que dans avoir une entreprise, il y a beaucoup plus de choix, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup moins personnel. Ça dépend aussi d'associés, de personnes et je ne sais pas où ça va mener. Peut-être que dans 5 ans, on fera un podcast et je serai sur un projet qui a découlé de cette initiative.
Je pense que là, on a presque tout dit. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter encore quelque chose.
Mais je pense qu'il y a quand même lieu aussi, on ne l'aura pas abordé, mais peut-être de dédiaboliser les marchés financiers. Comme je l'ai dit, voilà, j'ai fait une introspection aussi, et comme toi, toi aussi, tu avais des a priori. Est-ce que c'est normal que des prix, que le Bitcoin ait de la valeur, déjà, est-ce que c'est normal qu'il en ait? Donc ça on peut l'adresser. Est-ce que c'est normal que ça fluctue? Ben oui, en fait, tous les projets naissants sont toujours dans des phases où les fondamentaux sont faibles par rapport à ce qu'on en attend. Et donc, quand on a cette divergence importante entre les fondamentaux actuels, qui, en parenthèse, sont bien meilleurs en 2020 qu'en 2017, et on est pourtant au même prix. Et il y a eu ça, par exemple, avec la bulle .com. On se souvient, l'an 2000, 2003, il y avait une attente d'Internet qui était disproportionné par rapport à ce qu'on pouvait encore actuellement faire. À l'époque, c'était encore les modems 56K qui coupaient la ligne téléphonique. On était encore très loin d'avoir des géants actuels. On était sur des sites vitrines, on était sur... c'est normal qu'il y ait ces phénomènes, voilà, d'ébullition, puis de crainte, quand il y a cet écart entre ce qui est attendu et le fondamental. Mais ça n'a pas empêché, en 2015, de redépasser finalement les plus hauts que l'indice Nasdaq, c'est l'indice des 100 plus grosses entreprises Internet. Finalement, en 2015, on a redépassé les attentes de 2000, de l'an 2000. Et donc, c'est ça, ce genre de phénomène. Donc, je pense qu'il y a un point, ce serait vraiment de, si on diabolise les marchés, peut-être repenser à ça. Est-ce qu'on a une idée correcte de la chose? Et je le prêche pas pour ma paroisse, ni pour le fait qu'il y ait plus de gens dans le Bitcoin. Je pense que c'est intéressant intellectuellement de se poser la question. Et puis, dernier point, ben, je sais que tu veux parler un peu d'altcoin, je veux un peu parler de ça. Comment je vois les choses, c'est que les cryptos, c'est un tout. C'est une certaine valeur, c'est plusieurs centaines de milliards. La moitié, donc c'est sur Bitcoin qui vaut à peu près 300 milliards. L'autre moitié, le restant, 200-300 milliards aussi, bah on est déjà à 50-50. C'est-à-dire que Bitcoin, lui, c'est vraiment le baromètre, il est majeur, il donne vraiment le là, on va dire. Si Bitcoin se porte bien, en général, le reste va bien se porter. S'il se porte moins bien, évidemment, le reste va moins bien se porter. Donc lui, c'est vraiment le baromètre, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Et ensuite, on a donc ce sous-secteur. Donc il y a un sous-secteur à lui-même unique qui est Bitcoin, et on a ce sous-secteur altcoin qui va varier en fonction du baromètre Bitcoin, parce que lui, il donne, donc c'est lui qui a l'intérêt premier. Et dans ce sous-secteur, il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais c'est hautement plus spéculatif. Si on veut faire un pari là-dessus, je pense qu'il faut essayer de prendre un représentant de ce secteur altcoin, et pour moi, c'est Ethereum. Là où je veux en venir, c'est que si on a une exposition et qu'on veut être exposé à la totalité des cryptos, et qu'on veut pas trop se tromper, parce que parfois, si on a tous nos œufs dans le Bitcoin, bah parfois on voit les altcoins exploser. Puis alors on se dit, mince, je vais aller du coup dans les altcoins, mais du coup elles baissent. Puis c'est le Bitcoin qui monte. Et si on veut éviter de se poser trop de questions et d'éviter ces effets balanciers qui nous font au final perdre parfois de l'argent, bah c'est peut-être bien d'avoir une exposition totale sur le secteur et d'avoir du coup une partie de son investissement, je pense majoritaire, dans le Bitcoin, et le restant minoritaire sur un ou deux représentants altcoin. Et je pense que pour ne pas se tromper, c'est peut-être d'avoir Ethereum qui va lui développer des caractéristiques différentes du Bitcoin, et ça permet d'avoir une performance un peu plus lissée avec peut-être moins de fluctuations, parce que parfois Ethereum rattrape le coup quand Bitcoin baisse et inversement.
Et bien, sur ces bonnes paroles, je voudrais te remercier encore une fois de m'avoir accordé cette interview fort intéressante, et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup Roxane, c'était un plaisir, et j'espère qu'on se retrouvera dans quelques années pour continuer de faire le point.
On fera ça. Merci. L'épisode touche à sa fin et j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez découvert de nouvelles choses. Si vous avez apprécié cette interview, la meilleure façon de soutenir mon travail est de laisser un avis positif sur iTunes et ou Google Podcast, qui sont les plateformes de référence pour le classement des podcasts. Et votre avis pourra m'aider énormément à donner une plus grande visibilité à ce podcast Plan B et à faire découvrir Bitcoin et la cryptosphère à un maximum de gens. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de laisser 5 étoiles et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me laisser un petit message qui me fera très plaisir. Ça ne vous prendra que quelques secondes de votre temps, mais chaque avis positif fera pour moi toute la différence. Donc je compte sur vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant de la sortie de chaque nouvel épisode et autres emails informatifs sur mes pensées du moment sur ce qui se passe dans la cryptosphère. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Plan B avec comme invité Sébastien Arbogas du blog Chainskills. Et n'oubliez pas vos clés, pas vos bitcoins.